Portrait de Capiste, 8e épisode. Ils y sont parfois nés, ou ils viennent d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est dans le Cap Sizun qu'ils ont décidé de poser leurs valises. Clet Abraham, street artiste renommé, vit entre Florence et Plouinec. Il retape une maison à Poulgoisec, où il compte bien s'installer à plein temps. Fils de Monique Kérimel et de Jean-Pierre Abraham, il nous raconte son lien avec le Cap.
Je m'appelle Clet, je suis né en 66, breton, d'origine et d'expérience, jusqu'à l'âge de 22 ans. Après, je suis allé vivre en Italie pendant presque 30 ans et actuellement, je suis de retour en Bretagne, moitié Bretagne, moitié Italie. Artiste, street artiste. Alors moi, j'interviens sur les panneaux de la route, je colle des autocollants sur les panneaux de la route, sans autorisation. L'autocollant qui joue avec le message du panneau. C'est-à-dire que je ne transforme pas le message, je lui donne un autre niveau de lecture hein, et j'en joue. Je dis toujours aux gens qui me critiquent, ils me disent « Ah, mais après on comprendra plus quel message, qu'est-ce que ça veut dire le panneau ?» Bon, c'est pas vrai du tout, parce que moi je travaille beaucoup sur le thème de l'autorité, par exemple. Donc si on ne comprend plus qu'un sens interdit est un sens interdit, c'est mon travail lui-même qui perd son sens. Donc je joue en particulier avec les sens interdits, en me moquant d'eux, j'insère des personnages qui racontent des choses, qui enrichissent en quelque sorte ce sens interdit et d'autres sujets. Voilà, j'habite à Poulgoisec, c'est le centre du monde, comme tout le monde sait bien. Et on voit la mer de chez moi, c'est important, une petite maison sympa que je bricole un petit peu quand je suis ici. Poulgoisec, c'est à Audierne, dans le Finistère Sud, près de la Pointe du Raz. Mon père était à l'âge de 20 ans, donc il est né en 36, donc on parle des années 50, fin des années 50. Gardien de phare à Armène pendant 3 ans. Un jour, une équipe de la télévision décide de faire un reportage sur le phare d'Armène. C'est vrai que c'est un phare exceptionnel, hein, c'est le phare le plus extrême, on peut dire, au monde, je pense. Et mon père était là, donc ils font une interview à mon père et à l'autre gardien de phare. Ma mère, qui n'avait pas la télévision à l'époque, faisait la babysitter chez ses voisins, qui eux avaient la télévision, et tombe sur ce documentaire. Reste choquée par une phrase de mon père et lui écrit. Ils sont connus comme ça, en fait, mes parents. Mon père a répondu, et puis voilà. Quoi. Comme quoi, en fait, tu vois, se retirer dans un phare, peu tout seul pour être tranquille, et puis en fait, ça déclenche un mariage. Il n'y a pas moyen d'être tranquille en ce monde. Mon père était écrivain comme métier, quoi, même s'il l'a exercé sous différentes formes. Bon, c'était pas une personne qui avait la nécessité de vivre avec ses livres propres. Donc il a souvent exercé des métiers comme rédacteur pour différentes personnes, sociétés. Et c'est ça qui l'a amené un peu à bouger. Je pense qu'ils aimaient de toute façon avoir une vie assez aventureuse. Ils ont élevé des chèvres pendant un moment, ma mère après est devenue infirmière psy. Enfin, c'était des gens qui avaient une façon d'affronter la vie, je crois, très légère de ce côté-là. Peut-être une époque aussi où on pouvait se permettre, mais bon, je crois que c'est un esprit. Se remettre en question facilement. Après, de toute façon, il y avait le lien de l'écriture pour mon père qui créait, qui donnait un fil conducteur à tout ça, quoi. La Bretagne, une grande passion pour la Bretagne de la part de mon père. Et ma mère aussi, même si elle le refuse complètement. Mais, alors moi je suis breton hein, quand même d'origine, donc je retrouve ici mon enfance, même si mon enfance n'était pas dans le Cap. Hein. On a vécu avec mes parents sur une île des Glénans, on a vécu près de Concarneau, on a vécu dans le nord, ce qui s'appelait les Côtes du Nord à l'époque, on appelle ça les Côtes d'Armor maintenant, dans différents endroits là. J'ai fait mes études à Rennes, donc j'ai bien tourné en Bretagne, mais dans le Cap j'y suis venu quand même quand j'étais étudiant à Rennes parce que mes parents s'étaient transférés ici. Donc c'était le premier contact avec ici, disons. Mais après 30 années en Italie, je peux dire qu'arriver à Brest, c'est chez moi, quoi. Je retrouve une odeur, une lumière, une attitude au climat surtout. Et le climat, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour moi ici. C'est vraiment... c'est très spécifique à la Bretagne. J'adore ce climat. Il ne fait jamais trop chaud, jamais trop froid. Il y a toujours une lumière intéressante. Il pleut, j'aime ça en fait, hein, c'est beau aussi, il y a du soleil, un soleil merveilleux. Enfin, bon, niveau climat, je trouve ça très très comment dire, éclectique par rapport au climat italien, justement, qui peut être beau. On se dit, ouais, il y a du soleil tout le temps. Alors déjà, il faut savoir qu'il fait beaucoup plus froid à Florence l'hiver qu'ici en Bretagne. Et que 3 mois de soleil tous les jours, bah, c'est chiant. Vraiment, là, je pèse mes mots, c'est chiant. Ça bouge pas. Et tout s'aplatit, en quelque sorte. Alors qu'ici, c'est toujours vivant. Il se passe toujours quelque chose, le vent tourne en permanence, ça raconte énormément de choses, quoi. Et donc moi je retrouve tout ça en venant ici. Et je fais le lien avec ces 30 années manquées de Bretagne, et en fait ça m'a manqué énormément. Et je me rends compte que dans cette maison que j'ai achetée, c'est une maison des années 50, donc c'est un peu les dernières maisons en pierre qu'ils construisaient encore, et c'est un peu l'époque que j'ai laissée moi, en partant. Et j'essaie de reconstruire ce que j'ai laissé. C'est-à-dire que je repars donc en 1990, je suis parti, je repars à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que j'ai meublé ma maison en rachetant des meubles un peu années 50. Enfin, j'ai comblé je suis en train de combler ce vide, de finir l'histoire, en fait. Alors, l'histoire s'est interrompue en 1990 et je suis en train de la reprendre à ce moment-là pour la combler, quoi. Un des beaux côtés de ce territoire, c'est justement le fait qu'il soit isolé. C'est que on est à 600-700 km de Paris. Bon, moi j'adore Paris, hein, c'est pas ça le problème, mais ça lui donne du caractère, quoi. C'est plus difficile de venir ici. Et c'est en même temps quelque part ce qui lui manque aussi. Il lui manque une ouverture culturelle, quoi. C'est un manque de confrontation avec le monde. Bon, après on va à Paris et puis on croise quand même des centaines de personnes qui ont une ouverture d'esprit énorme par rapport à ici. Puis après, voilà, on revient ici, et puis y a plein de choses belles, il y a plein de valeurs. Il y a une forme d'humilité, en fait. Là, quelque part, la Bretagne, on le retrouve dans son architecture. Il y a une forme d'humilité, peut-être parce que la nature est tellement forte et tellement présente. La mer, surtout, ça empêche un peu l'homme de se monter trop la tête, quoi. On va voir les chapelles ici, elles sont d'une beauté, on sent l'homme un petit peu qui baisse un peu la tête ici, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de vent, parce qu'il y a les paquets de mer. Donc tu rentres un peu la tête dans les épaules, et ben voilà, tu te montes un peu moins la tête, et on le retrouve dans l'architecture, bien solide et un peu trapu. C'est plein d'humanité, en fait. Je crois que cette humilité, quand même, a un peu l'avantage, justement, de faire en sorte que, même si on n'est pas toujours d'accord avec son voisin, on cherche une façon de vivre pacifique, quand même. Avant tout, quoi. On nous laisse vivre ici. Et on laisse vivre les autres, quoi. Bon, après, chacun fait son truc. Et on peut le faire, ici. Il y a de l'espace. The room was dark, dusk, howling, softly, 6 o'clock. Charcoal light. Fine sight was moving black. The sound was music, mellow, steady flow. And man's own mind just mystic red, green, red, green. Your scene. No man would dance but leap and shake. That shocked you feeling right. Shape that sound. Alors je suis pas parti à Florence, hein. Je suis parti à Rome. Quand j'ai fini les Beaux-Arts, je voulais aller à l'étranger. Et j'avais un ami, breton entre autres, on était au lycée ensemble à Morlaix, qui vivait à Rome depuis quelques années, était restaurateur de meubles, et il m'a proposé de bosser pour lui. Donc j'ai eu une opportunité d'aller à l'étranger, et ça a été Rome. Mais je pense que j'aurais pu aller dans beaucoup d'autres endroits, hein. Et puis après, de fil en aiguille, voilà quoi. Rencontre amoureuse, enfant, travail, blubloum, et puis je me suis retrouvé 15 ans plus tard, plus ou moins, à Florence, quoi. Bah, quand on sort des Beaux-Arts, on n'a pas un boulot, quoi. Moi, je voulais être artiste, ou t'as eu un coup de génie à l'école des Beaux-Arts, mais ça, c'est un peu tôt en général pour avoir des vrais coups de génie, ou t'es super inséré dans le système, et moi, pas du tout, ça n'a jamais été mon truc. Et sinon, t'as rien, quoi. Donc, manuel, j'étais toujours été très manuel. Et puis j'aime bien le contact avec la réalité, dans tous les sens du terme. Donc voilà, restauration de meubles, c'est chouette. Un beau matériau, on va découvrir. Et en fait, j'ai vécu pendant 13 ans exactement en tant que restaurateur de meubles et menuisier. jusqu'à un moment où, en Toscane, j'étais dans un petit village tout petit, j'ai ouvert un atelier de peintre. Le loyer était très bas. Et puis, en fait, c'est étonnamment, du jour au lendemain, j'ai plus besoin de faire de menuiserie. J'ai réussi à vivre de ma peinture. C'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus. J'ai déménagé à Florence, donc de ce village-là, je me suis séparé de ma femme, parce que je ne me suis pas remarié. Et je suis allé à la ville la plus proche qui était Florence, donc c'était un peu un hasard là aussi. Et j'ai ouvert un atelier dans la même un peu optique que dans le village. Donc c'était l'atelier d'artiste ouvert au public, un peu la boutique comme on peut l'imaginer en Renaissance. L'artiste peintre était aussi un peu un artisan quelque part, et travaillait sur commande. Et donc j'ai repris cette formule-là, et puis au bout de 5 ans, j'ai eu cette idée de street art, de travailler sur les panneaux. Et là, ça a été la deuxième révolution, si l'on veut, beaucoup plus forte que la première, où je me suis mis même carrément à avoir du succès, quoi. Et très rapidement en plus. Donc en fait, cette boutique tourne en partie toute seule, en partie pas du tout, parce qu'il faut que ça reste quand même géré par quelqu'un. Mais ça me permet d'avoir du temps ici, quoi. Pour moi, pour travailler aussi, mais d'une autre façon, quoi. Le projet, ouais, c'est de plus en plus être ici, quoi. Bon, même si actuellement, passer toute l'année ici, je pourrais pas. Enfin, si, je pourrais passer toute l'année ici, mais à partir du moment où je peux bouger, un peu comme tu fais, toi, d'ailleurs, Lucie. Bon, il y a eu la ville de Pont-Croix qui m'a mis le tapis rouge, comme je dis. Donc, j'ai travaillé plus là-bas qu'ailleurs, mais j'aime bien me diluer. Dernièrement, je m'amuse à me dire qu'il faut que j'en mette au moins un par jour dans le cap. Mais vraiment en me distribuant le plus possible, donc dans des endroits perdus. Jusqu'à présent, ici, je me suis amusé, quoi. Pas plus. Et là, je me suis engouffré dans ce style, dans cet esprit, qui de toute façon me ressemble bien, je trouve. Et tout encore, aujourd'hui, j'arrive pas à en sortir, quoi. Il reste quand même des choses à creuser, et puis surtout, il y a un rapport à la société qui m'éclate. Moi, je suis pas du tout art pour art. Ça m'emmerde, en fait. Pour moi, l'art doit servir à quelque chose. Et à ce moment-là, plutôt d'un point de vue politique, quoi. Donc, parce que l'art, c'est un message. Cosa mentale, disait Leonardo da Vinci. Arte cosa mentale. Chose de l'esprit. Donc c'est un message, c'est une histoire. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est mental, quoi. Et dans ce travail sur les panneaux de la route, bon, bah, c'est l'occasion de parler de politique, de critiquer, de donner du sens, voilà, c'est ça l'art. Donc à ce moment-là, je trouve ça intéressant, et surtout parce que c'est populaire, donc ça parle à tout le monde. Et ça aussi, c'est une des autres facettes de l'art qui pour moi est important, c'est de ne pas être dédié à une élite. Parce que si l'art sert à des personnes très restreintes, qui déjà savent beaucoup, ça, à mon avis, ça sert à rien. Voilà, l'art doit servir, doit aider, surtout qui en a besoin, donc ceux qui n'ont pas accès à l'art normalement. Et mon travail est parfait pour ça. C'est vraiment aller chercher dans d'autres espaces que celui de l'art, un public, pour le ramener à l'art. Il y a un truc qui n'a rien à voir avec le cap, hein, qui n'a rien à voir avec mon travail, que je trouve amusant de développer ici. Peut-être parce que c'est complètement hors jeu, hors situation, hors sujet, quoi. C'était au tout début de mon travail sur les panneaux de la route. Donc au début de ce genre de travail, j'ai commencé à avoir beaucoup de followers sur Facebook, Instagram, et donc de commentaires. Et il y a moi, je critiquais beaucoup l'autorité, comme je fais toujours aujourd'hui. Et un follower m'avait écrit gentiment, il me dit, mais je critiquais certainement la police, j'imagine, me connaissant. Et il m'avait dit, mais qu'est-ce que. Mais t'imagines un monde sans police? Et lui, bien sûr, m'avait dit ça dans le sens, mais t'es fou, quoi. C'est pas imaginable un monde sans police. Et moi, j'ai jamais. J'ai pas répondu parce que, bon, à l'époque, je répondais pas, il y en avait trop, j'étais pas habitué à ça. Et j'ai jamais réussi. Je me suis toujours reposé cette question qui me revenait toujours, mais t'imagines un monde sans police? T'imagines un. Et moi, je me rendais compte qu'au fond de moi-même, bah oui. Rien à faire, quoi. J'avais beau essayer de tourner ça dans tous les sens, et bah, toujours, oui. Oui, bien sûr, j'imagine un monde sans police. Et je n'arrive pas à comprendre que tout le monde, ce ne soit pas une évidence pour tout le monde. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas une haine de la police, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement avoir des idées, en fait. Simplement imaginer un futur. Comme j'imagine, il y a un moment où pour les femmes, par exemple, pour pouvoir avoir le droit de vote, il a bien fallu que quelqu'un un jour dise, mais une femme dise, mais nous aussi on pourrait voter. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un imbécile qui aura dit, mais vous êtes fous, les femmes, ça ne peut pas voter. Non. Bon ben voilà, 100 ans après, les femmes votent, et ça nous paraît une évidence. Parlons de la démocratie, j'imagine, en France, en 1720. Je prends 20 parce qu'on est en 2020, donc il y a 300 ans, si un mec avait dit... Peut-être qu'un jour on n'aura pas droit, ce serait bien qu'on n'ait pas droit et qu'on trouve un autre. Et je suis convaincu qu'il y aurait plein de cons à dire, mais t'es complètement fou. Bon voilà, c'est la même chose aujourd'hui. Je suis pas contre les flics, je n'ai pas de haine de flics. ACAB, pour moi, c'est pas mon truc, je l'ai jamais dit, je le dirai jamais. Par contre, un monde sans police, ce serait quand même un monde super. Ça veut dire un monde où il y a beaucoup plus de responsabilisation des personnes, beaucoup plus de participation des personnes. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vient te dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est ça en fait, en bref. Donc, continuant à réfléchir à ce truc-là, je continue, des années après, à être convaincu, ben oui, en fait, c'est un des objectifs sur lequel on devrait travailler aujourd'hui. Travailler avec la police, justement, parce que bon, c'est sûr que c'est pas pour aujourd'hui, mais pour demain, oui, peut-être. Travailler sur ça, voilà, un projet, un beau projet sur lequel on devrait tous travailler ensemble, c'est l'abolition de la police.